Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche, votre nouvelle chronique d'information. Elle vous est proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années apparaissaient sur le marché les premiers sites spécialisés du type Airbnb, Abritel, Expedia ou encore Homeway, avec un objectif affiché, simplifier la location saisonnière et plus précisément la mise en relation entre d'un côté des propriétaires et de l'autre des voyageurs, des vacanciers qui souhaitent trouver un pied-à-terre pour un séjour de courte durée. Depuis, et face à l'explosion de l'offre de location de courte durée, les pouvoirs publics sont intervenus pour contenir ce phénomène dans les villes les plus touristiques. Il en résulte une réglementation parfois méconnue et souvent qualifiée de complexe. Nous allons la décortiquer avec Thierry Moilic, le directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thierry.
Bonjour Manon.
Comment se définit la location meublée touristique ?
Que ce soit une villa, un appartement, un studio, il s'agit de proposer à la location un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée et pour de la courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Cette location est alors à l'usage exclusif du locataire. Il peut ainsi s'agir aussi bien de proposer à la location une résidence secondaire que de profiter, pourquoi pas, des vacances pour mettre en location sa résidence principale. Cette faculté est offerte aux propriétaires, bien sûr, mais elle peut également, sous des conditions plus strictes, s'adresser à des locataires.
Quel conseil donner alors aux locataires qui pourraient être tentés de proposer leur logement en location saisonnière ?
Déjà, il faut savoir que dans le parc social, la sous-location pour de la courte durée est interdite.
Et dans le secteur privé ?
En principe également. Pour les locataires du parc privé, la première des précautions sera ainsi de prendre connaissance de leur contrat de location. Sauf à ce que ce dernier contienne une disposition autorisant la sous-location, l'autorisation écrite du bailleur sera nécessaire. Et attention, cette demande d'autorisation devra également préciser le montant du loyer à percevoir, loyer qui ne devra pas dépasser celui réglé habituellement par le locataire.
En cas de non-respect de cette règle, à quelles sanctions le locataire s'expose-t-il ?
Le bailleur peut tout d'abord envisager d'engager une procédure d'expulsion pour sous-location illégale. Il appartient alors à la justice de déterminer si ce comportement est de nature à justifier ou pas la résiliation du bail. Autre sanction, cette fois-ci financière, le bailleur peut engager une action en justice pour solliciter le remboursement de l'intégralité des sous-loyers perçus par le locataire.
Ces précisions apportées, Thierry, peut-on disposer de son logement librement pour le louer ?
Un particulier peut en principe louer sa résidence principale pour de la location de courte durée, sans faire de demande d'autorisation et sans changer l'affectation de son logement.
Mais il existe quand même des limites.
Tout à fait, à commencer par les mesures prises ces dernières années pour contenir l'explosion de l'offre dans certaines villes, et notamment les plus touristiques. Le développement de la location de courte durée, entre particuliers, a pu répondre à un besoin de diversification de l'offre disponible et à une envie sans doute de voyager autrement. Mais dans certaines villes, où le marché du logement est tendu, on a pu craindre que ce développement se fasse au détriment de l'offre en habitation principale de longue durée. Des règles plus ou moins strictes, selon qu'elles portent sur la résidence principale ou secondaire du loueur, ont ainsi été édictées.
C'est le cas par exemple à Marseille ou Aix-en-Provence.
Oui, tout à fait. Dans ces communes, la durée de location est limitée à 120 jours par année civile. Sur délibération du conseil municipal, il peut également être demandé de procéder à une déclaration préalable. Un numéro d'enregistrement sera alors attribué, numéro, qui devra être mentionné sur toute annonce de location.
Et pour ce qui concerne les résidences secondaires, est-ce que les règles sont différentes ?
Effectivement, les règles sont ici plus strictes. Il est tout d'abord obligatoire de déclarer la situation en mairie. Dans certaines communes, il sera par ailleurs demandé de déposer une autorisation de changement d'usage. Tel est le cas, là encore, à Marseille et Aix-en-Provence.
Et si le propriétaire néglige cette étape ?
Les manquements aux règles précitées sont lourdement sanctionnés. Aussi, avant toute mise en location de courte durée, et qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, il est important de se rapprocher de sa mairie afin de s'informer sur les règles éventuellement mises en place.
Un propriétaire peut être facilement tenté par les attraits de la location touristique, mais, et c'est souvent le cas dans les copropriétés, il y a des éléments à ne pas négliger pour conserver une bonne entente, notamment avec ses voisins. Qui dit touriste dit aussi arrivée tardive, des bruits de valises dans les couloirs, des rotations incessantes, autant de boucliers levés face à la location de courte durée.
Il est vrai que les locations de courte durée, notamment dans les immeubles en copropriété, ce qui sera le plus souvent le cas dans les grandes villes touristiques, sont parfois source de gêne et de litige. Tout d'abord, parce que cette activité peut être exercée en contradiction avec les clauses du règlement de copropriété, mais aussi parce qu'elle peut être à l'origine de véritables nuisances. Aussi, si vous êtes copropriétaire et que vous souhaitez louer votre logement, vous devez vous assurer au préalable que le règlement de copropriété ne l'interdise pas. Et bien évidemment, vous serez également tenu de respecter la tranquillité de l'immeuble. Faute de quoi, une action pour trouble anormal de voisinage pourrait être envisagée.
Thierry, on ne peut pas aborder ce sujet sans parler finances, ou plutôt fiscalité. Les revenus perçus par la location saisonnière sont imposables.
Les loueurs sont en effet tenus à une obligation déclarative auprès des services fiscaux. Sachez sur ce point que les plateformes ont aujourd'hui l'obligation de transmettre les informations sur les revenus générés directement à l'administration fiscale.
Pour conclure, Thierry, quel est votre sentiment personnel sur cet essor des locations saisonnières ?
Eh bien, c'est comme tout, il faut trouver l'équilibre. La demande en location saisonnière témoigne de toute évidence de l'attractivité d'une ville et certainement aussi de la volonté des touristes d'être logés différemment. Pour autant, je pense que cette pratique doit être encadrée car, sur nos territoires, l'offre locative pour des occupations de longue durée est insuffisante. Dès lors, les locations saisonnières qui viendraient réduire l'offre locative de droit commun rendraient encore plus difficile l'accès au logement pour le plus grand nombre. Nous devrions donc assister, dans les prochains mois, à des décisions prises par les municipalités pour encadrer encore plus strictement les locations saisonnières.
Ce sera le mot de la fin. Merci à notre expert Thierry Moalic. Je vous rappelle que les conseillers de l'ADIL des Bouches-du-Rhône sont disponibles chaque jour pour répondre à toutes vos questions dans le domaine du logement et donc par conséquent de la location saisonnière. Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?